L'actualité décortiquée. Commentée.
Savoir et comprendre. Cube.
On s'entend des nouvelles avec l'intelligence artificielle. Maintenant, ça court les rues. Il y en a presque tous les jours, dans tous les domaines. Une nouvelle sur deux, on s'inquiète d'une nouvelle poussée. Une autre nouvelle sur deux, ben, on est en train de louanger les bénéfices que ça peut apporter. Cette fois-ci, on est dans les thèmes plus inquiétants parce qu'on apprend que du côté des commissaires à l'immigration d'Immigration Canada, on s'est rendu compte qu'on s'en fait passer des petites vites. Avec ChatGPT, il y a des demandeurs d'asile qui viennent au Canada qui rédigent là, leur motif, là, c'est-à-dire là, l'histoire de leur persécution, pourquoi ils quittent un pays parce qu'ils se sentent en danger. Ils demandent à ChatGPT de faire leur devoir. Pour en parler avec nous, Maxime Lapointe, avocat spécialisé en droit de l'immigration, est en studio. Bonjour Maxime.
Bonjour, bon matin.
C'est un phénomène que vous connaissiez déjà, ça?
Oui, que j'ai entendu parler... À plusieurs égards, là, premièrement, bon, nous, dans le cabinet, exemple, chez nous, on s'est fait approcher par une firme de Toronto qui nous offrait un logiciel pour nous aider à compléter les formulaires d'immigration du fédéral. Dans un dossier d'immigration, il y a plusieurs formulaires, les informations se recoupent. Donc, le logiciel est capable d'aller prendre, exemple, le numéro de passeport puis l'insérer aux bons endroits dans les formulaires. Par contre, la technologie n'est pas rendue assez avancée pour les dossiers de compétences du Québec. Là, donc, la firme voulait se tester avec nous, mais nous, on a refusé. Dans les cas de demandeurs d'asile, les motifs de persécution selon le pays sont connus, que ce soit des motifs religieux, politiques, de sexualité, d'orientation sexuelle. Donc, c'est un peu connu, mais on est capable de faire travailler le logiciel afin de présenter une histoire. Et là, moi, où je décroche... c'est si il y a deux faux, hein, et c'est soit c'est pas vrai parce que ça s'applique pas à toi, mais aussi c'est pas vrai, c'est jamais arrivé, les liens de ta requête mènent nulle part, là. Donc c'est ce qu'on apprend ce matin dans l'article, là.
Ouais, puis c'est ce qui devient tragique, si on veut, dans cette histoire-là, c'est qu'il y en existe là, des vrais demandeurs d'asile. Il y a des gens qui fuient de la persécution. Il y a des gens qui peuvent pas rester là dans leur pays d'origine pour leur propre sécurité, leur propre santé. Ça vient discréditer un peu, puis ça vient nuire à cette cause-là quand on a des gens qui viennent inventer n'importe quoi, en gros.
Ah, c'est sûr, le processus global est affecté. Moi, je le dis souvent, les agents d'immigration du Canada sont plus capables de distinguer le vrai du faux là, d'un dossier à l'autre. Que ce soit pour une demande de visa de visiteur, où on le sait, des fois, bon, les visiteurs repartent pas, donc ils disent qu'ils viennent pour une période précise visiter un membre de la famille, un ami pour un événement, ou ensuite ils viennent demander l'asile. Là, on l'a vu la semaine dernière, c'est les étudiants étrangers, en grande majorité, là, commencent à demander l'asile parce qu'ils voient que, bon, ils termineront pas les études, c'est trop cher, il y a un autre chemin de résidence permanente. Et c'est beaucoup des stratagèmes d'immigration qui se développent au fil du temps. Puis avant que la machine gouvernementale s'en rende compte, ça peut être très long. Puis ensuite, oui, on peut aller regarder. Il y a moyen de perdre la résidence permanente pour des fausses représentations. On peut perdre aussi la citoyenneté. Mais de l'autre côté, après, il y a des mécanismes d'appel. On peut plaider des circonstances humanitaires. Donc, on peut tourner en rond dans la machine, même dans un cas où on s'enfoncerait, exemple, pour des fausses déclarations comme ça.
Oui, parce que ce que je retiens, puis c'est une conversation qu'on avait plus tôt dans l'épisode, il n'y a pas vraiment de conséquences. Quelqu'un qui fait ça?
Bien, j'ai entendu ce bout-là. Je comprends le point. On peut perdre son statut de résident temporaire, donc son permis de travail pour des fausses déclarations, parce qu'on peut être interdit de territoire au Canada pour 5 ans quand on a un statut temporaire. On peut perdre la résidence permanente, on peut aussi perdre la citoyenneté. Ça peut être révoqué, la citoyenneté. Le mécanisme juridique existe maintenant.
Il existe, est-ce qu'il est utilisé?
C'est ça la question. Est-ce qu'il va être appliqué, puis dans quel cas? Puis à combien de temps en arrière on va remonter? Puis je comprends le point que vous disiez plus tôt, c'est les gens... passe dans la trappe à souris, puis disent « Ah, il s'est rien passé. » Puis là, ça entraîne d'autres gens dans le sillage. Mais éventuellement, là, les agents aussi ont des mécanismes, ils ont de la formation pour détecter les histoires qui finissent par se ressembler. On l'a vu, exemple, dans des dossiers d'immigrants investisseurs où, étrangement, beaucoup de gens avaient la même expérience de travail. Mmh. Donc, ils documentaient une expérience avec... Une déclaration de l'employeur, puis les documents étaient frauduleux. Là. Donc, mais le gouvernement, avant que ça rentre compte, ça peut prendre plusieurs années. Et là, il y a une ligne à tracer, parce que je suis peut-être un vieux dinosaure de 41 ans, mais moi, j'ai jamais utilisé ChatGPT. J'ai écrit un livre sur l'immigration l'année dernière, ça m'a jamais passé par la tête une seconde. Là. Je trouvais que les mots, je voulais les choisir moi-même. Là. Bon. Mais on voit... que ça peut être utilisé quand même à bon escient, ne serait-ce que pour mettre les phrases dans le bon ordre, tout ça. Mais maintenant, dans des demandeurs d'asile, c'est rendu le bordel total. Excusez-moi l'expression, parce que là, on peut plus distinguer là, les histoires d'un pays à l'autre. J'ai déjà entendu des clients me dire, ah ben oui, moi, c'est mon consultant qui m'a écrit mon histoire. Là. Donc, on voyait, c'est un consultant de Toronto qui a été blâmé pour avoir justement inventé le 20, 30, 40 histoires similaires. Et là, le bout qui est particulier, c'est que le demandeur d'asile, lui, c'est lui qui va être sanctionné pour avoir fait affaire avec un consultant frauduleux qui a inventé une histoire. Donc, faut être très prudent quand on veut utiliser les services d'immigration, s'assurer que ce soit fait par des gens professionnels. Mais dans cette industrie-là, faut avoir un plus grand pouvoir de surveillance, parce que là, il y a toutes sortes d'histoires qui se passent.
Oui, puis vous faites bien d'aller sur les autorités puis sur la surveillance qui doit être faite. Là, je veux absolument éviter de stigmatiser des gens qui viennent ici, qui cherchent un futur meilleur, puis même si, je veux dire, ils utilisent des moyens frauduleux. Pour moi, le problème, j'ai l'impression qu'il est plutôt à Immigration Canada. Puis mon Dieu, qu'on a encore du sucre sur le dos de ce ministère-là. Mais est-ce qu'ils sont outillés assez pour être capable de faire face à ça? Je veux dire, là, c'est la montée de l'intelligence artificielle. On a l'impression qu'il y avait déjà les deux mains dans mélasse, qui étaient incapables d'intervenir sur à peu près n'importe quoi, qui font tout en retard, qui sont pas capables de livrer des services à temps. Puis là, on ajoute en plus la contrainte qu'ils doivent essayer de détecter des textes générés par l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un ministère qui est assez compétent pour gérer ça?
C'est un ministère qui... On entend les oppositions fédérales le dire, c'est le ministère fédéral le plus dysfonctionnel. Mais je fais une mini-parenthèse juste pour vous dire, l'intelligence artificielle, elle va dans deux bords. Là. Le fédéral l'utilise aussi pour traiter les dossiers. Ils ont un logiciel qui s'appelle Chinook, qui détecte les risques pour le Canada en quelques secondes, puis qui fait un rapport à l'agent qui, lui, va dire oui ou non, est-ce que j'accepte, exemple, la demande de permis de travail. Immigration Canada, en tout temps, ont 2 millions de demandes à traiter, environ 1,2 million de demandes qui demeurent dans les normes de service, 800 000 qui sont dépassées. C'est ingérable. Quand, pensez-y, les bureaux à l'international en Inde qui traitent les demandes de visas de visiteurs, de gens qui veulent venir visiter le Canada. J'avais déjà vu une statistique en 2018, c'est un exemple, mais je pense que c'était 50 000 demandes à traiter par mois. T'sais, c'est pas
par
comme
mois.
C'est pas comme traiter le système de santé, là, où est-ce qu'on sait, bon, les gens rentrent, ils veulent se faire soigner. C'est pas comme opérer un restaurant où on peut prendre les réservations, où c'est prévisible. L'immigration, c'est imprévisible. On ne sait pas qui va faire une demande, qu'elle soit légitime ou non, peu importe le pays, par un point d'entrée irrégulier, exemple, à chemin Roxham. Donc, c'est ingérable, mais en même temps, c'est impossible à gérer. Là. Donc, il faut les attendre. Je pense qu'il faut les baisser. Mais l'intelligence artificielle fait partie autant de l'écosystème pour les demandeurs que pour le gouvernement. C'est ce que je tiens à mettre en lumière quand même.
Oui, vous faites bien de le faire mettre la pointe, mais là, on se dit on doit baisser les attentes. Je comprends que c'est complexe. Je comprends que c'est il y a éminemment, là, c'est un gros dossier à gérer. Est-ce qu'on est outillé en ce moment pour ça? Parce que là, la solution, ça semble pas être plus de fonctionnaires. Là, on l'a vu plus tôt cette semaine, c'est une nouvelle qui sort aussi. On ajoute des fonctionnaires, puis il n'y a aucun de nos services qui augmente, qui devient meilleur. C'est quoi les pistes de solutions? Je m'entends que vous avez pas la solution dans les mains, mais par où on commence pour essayer de régler ces problèmes-là?
Pour les demandeurs d'asile, c'est difficile de faire un moratoire, hein, parce qu'on peut pas dire on ferme le programme. C'est pas comme, exemple, le programme des immigrants investisseurs au Québec qui a été fermé de 2019 à 2024 pour faire une réforme. Là, aujourd'hui, on peut déposer des dossiers dedans. Mais un demandeur d'asile doit passer par le système. Donc, une demande est montée, puis elle doit être traitée. Les inventaires sont ingérables. Et il y a un peu de stratégie là-dedans aussi, des fois, de reporter, tu sais, peut-être l'audience. Il y a des mécanismes d'appel.
Ouais.
Qui font en sorte qu'on peut rester 2-3 ans de plus. Puis après ça, il y a des mesures de renvoi, dépendamment du pays d'origine. Est-ce que le renvoi va être exécutoire? Exemple, on renvoie personne à Haïti pour des raisons politiques là-bas. Donc, on peut tourner longtemps dans la machine. Au niveau des suggestions, ben, ça serait de simplifier au plus, au minimum, le formulaire, la demande, pour éviter qu'on ait... Parce que les avocats, les consultants aiment faire des dossiers volumineux. Donc, c'est pour ça qu'ils se font aider par l'intelligence artificielle pour documenter un dossier qui va démontrer à l'agent que la personne est persécutée et devrait être protégée par le Canada. Moi, je réfléchis à voix haute avec vous. Ce que je ferais, ça serait des auditions orales le plus vite possible avec uniquement la personne dans la pièce, pas de représentant, pas de soumission écrite. Et ensuite, j'analyserais Puis on pourrait parler peut-être même de détecteurs de mensonges, le rendu là, pour essayer. Mais faut
un... On vient ou en personne, là. On lâche le papier, courriel, tout ça, là. On vient à base, un humain qu'un humain dans une pièce.
C'est ça. Puis assez rapidement, le plus tôt possible dans le processus, parce que là, bon, on voit les demandeurs d'asile se plaindre qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un permis de travail assez rapidement. Donc, ils veulent contribuer au Canada, mais ne peuvent pas travailler. De l'autre côté, si on donne un permis de travail à l'entrée au Canada, quand on vient demander l'asile, là, on va faire la publicité des permis de travail gratuits en demandant l'asile. Ce ne sera plus 40 000 personnes par année. Ça va être 400 000 demandeurs d'asile qu'on va avoir. Donc, le Canada doit doser un peu. On l'a fait récemment avec le Mexique. On impose un visa depuis le 29 février aux Mexicains. Donc, on essaie de contrôler les demandeurs d'asile. Je vous le dis, les étudiants étrangers qui lâchent l'école, qui vont décider de demander l'asile, c'est à surveiller. Mais ensuite, les services frontaliers, peut-être les faire intervenir aussi. Parce qu'il y a des gens qui disparaissent dans la nature. Donc, il y a des gens qui sont renvoyés. Donc, ils ont une mesure d'expulsion qui devient exécutoire, mais qui disparaissent. Quand on parlait que le fédéral veut faire un programme de régularisation des sans-papiers, ça fait 2 ans qu'on en parle, il faudrait peut-être le mettre en œuvre. Déjà là, pour demander aux gens de se déclarer, parce qu'on ne sait pas le chiffre de sans-papiers des gens qui ont disparu, des demandeurs d'asile qui sont refusés, qui ne repartent pas, des visiteurs qui ne repartent pas. Je pense qu'on ferait le saut si on savait le vrai chiffre.
Oui, il y a encore des statistiques qui nous manquent malgré le fait qu'elles sont déjà assez impressionnantes. Merci. Je reprends à mettre la pointe, un point que vous venez de dire dans les dernières phrases. On veut surtout pas envoyer le message que c'est le bar open des permis gratuits de travail au pays. Le Canada, à l'international, est-ce qu'on l'a pas? Est-ce qu'on s'est pas créé cette image-là d'un pays tellement permissif au niveau de l'immigration que c'est tellement facile de venir, de rentrer, de trouver un permis de travail, que c'est ta demande de demandeur d'asile est tellement longue à rouler que par le temps qu'on est en train de l'évaluer, tu t'es installé, tu as des enfants qui sont désormais citoyens canadiens, puis hop, on peut plus rien faire pour, par exemple, refuser ta demande, donc être accepté d'office. Est-ce qu'on a ça, cette réputation-là, à l'international, de pays facile, entre gros guillemets?
C'est sûr que depuis 2015, le changement de gouvernement avec Justin Trudeau a changé l'image du Canada à l'international. Moi, je me rappelle, dans ces années-là, j'avais une pratique à l'international, puis je disais, le Canada est de retour là, au niveau de la réputation internationale. 9 ans plus tard, avec des programmes d'immigration, des fois, où je vous dis, il y a des stratagèmes qui se développent plus vite que la vérification, la surveillance du gouvernement. C'est un peu, exemple, les gens qui trafiquent le signal de Bell ou Vidéotron. Ils travaillent chez Vidéotron, ils démissionnent, ils viennent te vendre un modem pour... Ça va plus vite pour trafiquer que pour réparer. Mais pour la réputation, je comprends tout votre point sur la réputation, puis ça a l'air facile, puis tout ça, mais on est un pays d'accueil, le Canada, qui est basé sur l'immigration, mais l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'ai pas de solution. Est-ce qu'on met des clôtures? Est-ce qu'on met des agents avec un fusil? Donc, quelle réputation on va avoir le Canada comme justement pays d'accueil à l'international? La solution est vraiment pas simple. On a signé des conventions internationales. Il y a du droit humanitaire. C'est de la justice sociale, selon Mark Miller, à certains égards aussi. Donc, je comprends le point. Pas si simple. Le mieux, ce serait d'avoir un processus rapide. Mais il y en a des gens aussi qui se font refouler. Ils viennent demander l'asile. Finalement, sont coupables de grandes criminalités. Ils ne rentrent pas dans le processus. Là. Donc, c'est des processus qui sont très complexes. Et le volume fait qu'on peut pas livrer dans un délai raisonnable la prestation. Là.
Non, effectivement, c'est un problème éminemment complexe. Là. On va pas le régler ce matin, mettre la pointe. Mais au moins, on peut essayer de nommer des pistes de solutions. Je vais retenir que... En personne, mano à mano, 2 personnes assises là, dans une pièce. Il n'y a rien mieux pour être capable de vérifier une histoire. ChatGPT ne peut pas venir aider dans
surtout
une situation
très
comme ça.
Très rapidement, parce qu'après ça, les gens ont le temps de préparer aussi, de documenter. Donc peut-être très rapidement, mais c'est les mécanismes de renvoi après ce qui vont être appliqués. Donc il y a plusieurs mécanismes administratifs. Est-ce qu'ils vont être utilisés, appliqués ou non? Est-ce que les gens peuvent être déportés dans le pays d'origine? C'est très complexe, honnêtement.
Excessivement complexe. Maître Maxime Lapointe, vous êtes un avocat spécialisé en immigration. Merci d'avoir été là.
Merci.